Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment protéger les citoyens congolais vivant à l'étranger? On en parle aujourd'hui avec le professeur Prince Kalume Bea, enseignant des droits internationaux publics. Professeur Prince, bonjour.
Bonjour, bonjour, cher ami.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Les sujets vous intéressent, fidèles auditeurs, appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Quelle est l'importance du balisage régulier des cours d'eau de la République démocratique du Congo? Eh bien, ce sera notre deuxième sujet de cette émission. À partir de 11h05, heure de Kinshasa, toute l'équipe est en place pour vous servir. Marcel Ngombo assure la coordination de cette émission. Tati Mapoukou est à la réalisation. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Et oui, encore une fois, bienvenue dans cette émission, dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de la protection des citoyens congolais vivant à l'étranger. Eh bien, on enregistre de plus en plus des cas d'attaque, même d'assassinat de certains citoyens congolais qui sont à l'étranger. Le dernier cas est celui de Patrick Lioya, jeune congolais de 26 ans, tué à bout portant par un policier blanc lors d'un contrôle des documents auxquels il voulait se soustraire. Les faits se sont déroulés au courant de ce mois d'avril à Grande Rapide dans le Michigan au nord des États-Unis. Alors, comment assurer la protection des Congolais à l'étranger? Que doivent-ils faire en cas de problème ou en cas de situation mettant en danger leur vie ou la vie des autres compatriotes? Eh bien, on aura de plus amples détails par rapport à cela avec notre invité. Eh bien, il s'agit du professeur Prince Kalume Bea, enseignant des droits internationaux publics. Professeur Prince, encore une fois, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bien, alors, comment assurer la protection? Vous avez suivi certainement ce qui s'est passé avec ces jeunes Congolais assassinés par un policier américain. Comment protéger les citoyens congolais qui vivent à l'étranger?
Les faits sont...
Ouais, je pense qu'il y a eu un souci avec votre micro. On n'a pas, les auditeurs n'ont pas certainement suivi ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, vous pouvez répondre. Je disais, ma question était de savoir comment protéger les citoyens congolais qui vivent à l'étranger.
Ouais, comme je le disais tantôt, les Congolais qui sont à l'étranger doivent avoir à l'esprit qu'ils ne sont pas sur leur territoire national, qu'ils sont chez autrui. Et chez autrui, il y a plusieurs considérations qu'il faudrait prendre en compte, notamment le fait qu'il y a une mentalité de chez autrui à laquelle il faudrait peut-être se conformer. La première des protections, c'est éviter de se mettre dans des situations dangereuses. Si la peur que la situation puisse vous trouver, c'est solliciter la protection de son état, la protection de son consul,
l'ambassade,
et puis les communautés. Parce que la première protection se passe à travers les communautés. Nous, les Congolais, l'étranger, nous avons des communautés dans lesquelles nous nous retrouvons, qui ne sont pas nécessairement des structures officielles, c'est comme des clubs, des gens qui sont solidaires, bien organisés,
avec
un président, à travers lesquels la voix est toujours portée assez rapidement et ça fonctionne assez normalement. Mais la première des protections, c'est l'individu. Quand tu es devant un contrôle policier, soumets-toi. Quand tu as une situation irrégulière, tant mieux. Si on a une situation irrégulière, évitons de nous exposer. Ce sont toujours des cas qui arrivent, mais la première des protections, c'est soi-même. Et ensuite on peut penser aux mécanismes institutionnels qui existent, lesquels mécanismes sont à un double niveau, au niveau de notre ambassade, du consul s'il y en a, et également au niveau des mécanismes internes au niveau de notre État, avec un ministère des Affaires étrangères qui peut venir plus tard, mais les dés aura déjà été jetés, parce que s'il y a eu atteinte à votre vie, effectivement, il y aura beaucoup de problèmes.
Comme c'est le cas de ces jeunes de 26 ans, qui a reçu une balle dans la tête parce qu'il refusait de se soumettre à un contrôle de routine.
Oui, malheureusement, que nous avions tous vu la vidéo.
Parce qu'il avait un véhicule avec une plaque qui n'était pas conforme, on dirait.
C'est comme ça que je l'ai dit. Vous voyez, il est dans une société où, il faut qu'on se le dise, les blancs restent blancs, le noir reste noir et constitue une menace pour les blancs. C'est cette société-là où il y a un clivage.
Il y a toujours ce clivage racial.
Les clivages existent et il existera encore pour longtemps, en dépit de tous les mouvements qu'on peut entreprendre, en dépit de tous les textes internationaux qui prônent l'égalité entre hommes, tout ça. Mais dans le fort intérieur, la ségrégation là, la présentation du noir aux États-Unis comme une menace pour les blancs est réelle. Alors, les blancs ne doivent pas se mettre, le noir ne doit pas se mettre dans des conditions qui peuvent faire que son intégrité soit touchée, soit atteinte, soit atteinte par un comportement quelconque de la police. Mais qu'au-delà de ça, la protection de tous doit être garantie. Moi, j'ai estimé par exemple que le policier était allé trop fort, étant donné que les garçons étaient déjà à terre. On pouvait les maîtriser différemment. C'est pour ça qu'on a une police. Mais jusqu'à tirer à bout portant, c'était extrêmement flagrant. J'espère que la justice américaine fera son travail.
Voilà, donc on retient pour et d'abord les mécanismes de protection. Vous avez dit qu'il faut se conformer aux lois du pays, se protéger d'abord soi-même. Et puis nous avons les communautés congolaises qui sont à l'étranger, qui peuvent aussi constituer une protection. Et puis le consul, l'ambassade, etc. Il y a eu par exemple dernièrement des cas, on se souvient en Inde, où des étudiants congolais étaient en difficulté, même en Ukraine, avec la guerre qui a éclaté. Il y a certains étudiants congolais qui voulaient quitter le pays, mais c'était pas toujours facile. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces réalités-là?
Bon, la réalité internationale est la même. Hein. Les États n'ont pas d'amis. Chaque État privilégie au fait ses intérêts et peut se retrouver dans des situations un peu plus complexes. Faut savoir. Ce qui fait que notre ministre des Affaires étrangères ou notre ministère qui a déjà une direction de la protection de Congolais de l'étranger. Cette direction doit être suffisamment active. Vous avez vu que notre ministre s'était impliqué pour les cas de notre étudiant qui a été abattu en Inde. On a également un cas qui nous revient. Ce qui fait que aux États-Unis, bon, nous sommes dans le cadre d'un partenariat stratégique. On espère que toute la lumière sera faite. Donc, je ne sais pas si les autorités habilitées, notamment le ministre des Affaires étrangères, s'est déjà saisi du dossier. Je n'ai pas encore lu les communiqués, je ne sais pas. Mais je crois qu'au nom de notre partenariat stratégique avec les États-Unis, les autorités judiciaires américaines feront toute la lumière sur ces cas, qui est un cas malheureux, mais qui est l'un parmi tant d'autres qui arrivent aux États-Unis. Malheureusement, on doit les déplorer. Et faire des recommandations idoines, surtout par rapport à nos compatriotes qui sont à l'étranger. Vous savez que la plupart se retrouvent à l'étranger peut-être dans des situations
irrégulières. Ils n'ont pas de
sollicitant,
documents.
Sollicitant les statuts des réfugiés, conformément à la convention de 1951. Mais deux fois, ça pose des problèmes de statut clair. Or, quand on est en situation irrégulière, et devant un contrôle régulier des routines, vous voyez la panique.
Donc, oui, c'est la panique, on a tendance à fuir.
C'est le premier réflexe. C'est pour ça que je l'ai dit, il faudrait que ceux qui se déplacent, qui ont l'intention de s'expatrier, qu'ils comprennent qu'il faudrait se conformer aux règles locales. C'est important. On doit vivre dans la modestie, dans l'effacement. Jusqu'à entrer dans le système, il y a un système américain qui exclut des individus. Il y a des gens qui sont aux États-Unis sans documents, qui ne sont pas dans le système régulier, qui doivent fouiller la police toute leur vie, qui ne savent même pas acheter des médicaments parce qu'il n'y a pas de documents. C'est très compliqué.
Et d'autres même arrivent à changer d'identité. Ici, on l'appelait Kasongo, Alain, là-bas. Il se présente sous une autre identité.
Oui, ce sont des cas très fréquents. En dépit de tout ça, ce qui est important, c'est chercher à régulariser sa situation. C'est vrai. Vous voyez, dans des États tels que les États-Unis, qu'on le veuille ou pas, ces États ont besoin de cette immigration irrégulière parce qu'il y a ces gens-là vont travailler, ne seront pas payés ou peuvent être payés pour des petits jobs, mais dans le système américain, ils ne seront pas sous la charge de l'État, mais ils vont contribuer à l'économie américaine. Donc tous ces gens qui passent par le Mexique, par tous ces États de l'Amérique du Sud, en réalité, on les filtre, mais on les accepte aux États-Unis. ça veut dire qu'on a besoin d'utiliser cette main-d'œuvre.
Main-d'œuvre
moins chère.
Oui.
Qui ne complique pas la charge à l'État, où il n'y a pas beaucoup d'allocations, mais qui fait fonctionner l'économie américaine. Alors, puisque vous êtes conscient de votre manière d'être arrivé aux États-Unis, dans des situations complexes, le minimum, c'est faire profil bas. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe que la jeunesse qui va à l'étranger, évidemment, si quelqu'un avait moins de 150 dollars ici, et que ton premier salaire, c'est 1800 dollars ou 2000, automatiquement, tu entres dans un régime tel que tu ne maîtrisais pas ici à Kinshasa. Mmh.
Professeur et... Prince, si vous avez analysé la vidéo, pourquoi ce jeune homme n'a pas voulu se soumettre aux exigences de la police, démontrer les documents de bord?
Ça peut être peut-être un véhicule volé. Ça peut être où il était dans une situation irrégulière. Parce que moi-même, je n'ai pas compris. On a même posé la question s'il parlait l'anglais. Je crois que si vous avez suivi la vidéo, c'était une des questions du policier. Mmh. Il a même dit oui. Mais la façon dont la balle est sortie, on peut déplorer. Mais on peut aussi analyser que il n'était pas en odeur de sainteté. Il n'était pas en odeur de sainteté pour
se
soumettre.
Parce que le policier lui a dit que la plaque là n'était pas...
Pour, oui, effectivement, régulière.
Oui.
Donc peut-être c'était des véhicules d'opération, c'est un peu complexe. Mais le minimum, c'est qu'il aurait dû se soumettre. Sûrement que...
Pris de panique, il a voulu se sauver.
Pensant que si on les prenait, ça serait peut-être 10-15 ans. Tout ça dans la tête, il a réfléchi en pensant qu'il pouvait fuir. Pensait qu'on était dans le route des Matonga, il pouvait sauter, entrer dans des tunnels. Bon, c'était un peu complexe. Mais ça, qu'à cela ne tienne, puisqu'il y a eu mort d'homme, la procédure doit s'ouvrir régulièrement. La protection diplomatique doit se faire normalement. Les autorités doivent être saisies et les cas... Les policiers souvent vont passer en disciplinaire, ainsi de suite, mais...
Mais pourquoi avoir usé de tels moyens d'avoir tué quelqu'un à bout portant?
C'est comme ça que je
Parce
vous dis.
Parce qu'il avait presque maîtrisé.
Aux États-Unis, cette phobie du noir qui menace le blanc est réelle. Qu'on ne se voile pas la face.
Parce qu'il y a eu des jeunes noirs américains qui ont tué des policiers.
Effectivement. Ce qui fait que pour un policier américain, quand il y a un noir qui vous résiste, c'est que le policier est en danger. Et utiliser son arme, c'est la solution ultime. Donc, quand le policier constate qu'il n'a plus de choix que d'utiliser son arme, il doit le faire. Il est formé comme ça. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est ne pas utiliser son arme pour neutraliser, mais l'a utilisé pour tuer. C'est aussi ça dans leur formation. Ils pouvaient tirer au pied.
Ils pouvaient, pour qu'il ne puisse plus s'enfuir.
Pour que les gars puissent plus s'enfuir. Mais il a tiré à la tête. Vous imaginez qu'il y a eu mort d'homme sur place. C'est là où on peut déplorer. Mais
il y a une autre personne qui filmait la scène. J'imagine que c'était un policier aussi.
C'est dans leur subconscient. C'est dans les méthodes américaines de contrôle policière. Donc, quand le policier est en insécurité, il sait que ce jeune homme peut avoir une arme dans son véhicule, peut avoir une arme sur lui. Il est sur le qui-vive. Et c'est moins de 5 secondes qu'il réfléchit pour réagir. C'est notamment utiliser son arme directement. Et c'est ce qu'il a fait.
Bien. On va accueillir les auditeurs. Comment protéger les citoyens congolais vivant à l'étranger? Boumediene, vous êtes à Lubumbashi et Piron Pania également dans la même ville. Vous voulez participer, fidèles auditeurs? Il suffit de composer les 081 890 63 94 pour vous enregistrer.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Comment assurer la protection des citoyens congolais vivant à l'étranger? Boumediene, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour aussi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Oui, je pense bien que ce que nous devons faire pour protéger nos concitoyens qui sont à l'extérieur, c'est d'abord qu'ils aillent s'identifier dans nos ambassades, consuls, ainsi qu'au sort. Jusqu'à ce moment-là, nous savons que dans telle ville, tel district, nous avons autant de Congolais. Celui-ci fait ça et l'autre fait ça. Moi, j'ai un cas particulier d'un monsieur qu'on a arrêté ici à Kasumbalesa et emprisonné en Zambie pour des affaires zambiennes. Mais jusqu'à présent, même l'ambassadeur ou le consul ne connaît pas ce dossier-là. Et c'est pourquoi j'aimerais poser la question à notre invité. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce Congolais qui est déjà prison en vie, pour le commerce entre un Congolais et un Zambien, le Zambien amenait la marchandise qu'il donnait au Congolais pour vendre au Congo, et c'est là le... Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce Congolais...
On vous entend plus bien, la communication s'est détériorée. Vous avez dit qu'il y a un Congolais qui faisait le commerce avec un Zambien, mais on est venu l'arrêter au Congo pour l'emprisonner, pour le mettre en prison en Zambie.
Oui, en Zambie, on l'a mis en prison, ça fait au moins 6 mois.
Et pour quel motif?
Désolé,
la communication s'est détériorée. Il n'a pas payé ses dettes à l'égard de son partenaire zambien, j'imagine. Et on vient l'arrêter pour aller l'emprisonner en Zambie. Merci. Pierrot Pagna, vous êtes aussi à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre question?
Oui, je commence par d'abord... j'achète d'abord ce que le co-débatteur vient de dire là. En Zambie... Cette habitude persiste. Moi, je trouve que notre pays a tout sauf l'État. Comment on peut imaginer en Zambie pour entrer, nous souffrons ici à Lubumbashi, mais quand les Zambiens entrent, ils sont comme s'ils étaient chez eux. Notre pays, je ne sais pas comment nos ambassadeurs se comportent, comment nos services aux frontières se comportent. C'est quelque chose qui ne nous enchante pas. Et en Zambie, on nous appelle les Tchibualala, c'est-à-dire les gens qui, les voleurs, comme ça. C'est comme ça qu'on nous a surnommé les Congolais. Alors, moi, je trouve que le problème est d'abord de nos autorités. Parce que si vous prenez les artistes musiciens à Kinshasa, imaginez, ils amènent leurs musiciens aux États-Unis, en France, partout, et même les gens qui sont partis soutenir l'équipe, il y a plus de 25 personnes qui se sont volatilisées comme ça. Pourquoi? Parce que la situation ne nous permet pas, la situation socio-économique ne permet pas ce que nous puissions rester. Maintenant, là où nous partons, on trouve que nos ambassadeurs sont encore dans leur lit, ils dorment encore. Mais je ne sais pas, je ne parviens pas à comprendre. Ma question était de poser à l'invité qui dit que non, le militaire américain sont formés que si vous avez une agression contre les Noirs, là, si vous trouvez que non, vous n'avez plus à faire, vous devez tirer. Alors George Floyd a été tiré ou a été asphyxié. Alors ça, ce n'est pas une bonne pratique parce que c'était un Européen qu'on tuait comme ça, je peux dire que c'est toutes les chaînes, tous les médias qui pouvaient parler. Alors, mais pourquoi nous, notre ministre de la communication n'a pas eu le temps de passer dans des chaînes internationales? L'ambassadeur congolais qui est sur place n'a pas eu ce problème comme son propre problème pour que nous, tous les médias internationaux puissent parler sur base de ces problèmes-là. Moi, je trouve que c'est une fois de trop. Alors, je demande aussi à l'invité de nous expliquer, parce que lui a déjà été aux États-Unis, il connaît ces problèmes-là. Qu'est-ce qui fait que tous les Congolais qui vont là-bas, ils ont tendance à fuir, même s'ils n'ont pas tous les documents, et à la fin, on leur met la main, et où ils vont, et qu'est-ce qu'ils sont, et qu'on les demande, ou pourquoi on les renvoie au pays. Je vous remercie.
Bien, merci. Kachaï, vous êtes à Kanyuka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à l'invité.
Nous parlons de la protection des citoyens congolais à l'étranger. Quelle est votre préoccupation?
Oui, monsieur Jody. Nous, ici au Congo, nous ne pouvons pas protéger ceux qui vivent ailleurs. Mais c'est le gouvernement qui peut prendre en collaboration avec les autres gouvernements de ce pays là où se trouvent nos compatriotes pour leur protection, leur sécurité. Alors, monsieur Jody, il n'y a pas très longtemps où un Congolais était mort en Chine au cachot. Hein? Il a été arrêté, mis en cachot, dans les conditions inhumaines, il est décédé. Aujourd'hui, c'est un policier qui se permet de tuer. Vous vous rappelez encore qu'il y a un Africain qui a été tué aux États-Unis. Le nom est parti, et tout récemment, il s'est fleuri, un nom comme ça. Là. Il a tué un Africain. Alors, comme c'est le nôtre Congolais, il est tué à bout portant par un policier. Alors que nous ne pouvons pas oser tirer sur un Américain vivant sur le sol congolais. Vous voyez ce que ça fait. Moi, je voulais demander à l'invité. Il peut bien faire la leçon ici. S'il fait le plaidoyer auprès du ministre, il y a les Congolais de l'étranger dans ses attributions, c'est un peu important pour la protection de ces Congolais-là. Il faudrait que le gouvernement congolais puisse voir dans quelle mesure. Même tous les ambassadeurs que nous avons dans les différents pays, les ambassadeurs congolais, pour voir lorsqu'un Congolais arrive dans un territoire étranger, comment peut-il être protégé? D'abord à partir de l'ambassade congolaise. Qu'est-ce que l'ambassadeur doit faire avec ces Congolais-là afin qu'il surveille son mouvement, son entrée, sa sortie, son séjour, pour qu'il ne subisse pas de conditions là jusqu'à être tué.
Ça, d'accord.
De deux.
Oui.
De deux. Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions. Vous vous rappelez, monsieur Jody, les ambassadeurs, parfois les autres sont en train de louer les locaux privés. Alors quand ils louent, ils ne savent même pas encore tenir de prier pour savoir qui est Congolais qui vient d'entrer dans ce pays, qui est dans l'autre ou l'autre coin. On ne sait pas les regrouper parce que l'administration congolaise des ambassades à l'étranger n'est pas stable. Parce que les ambassadeurs eux-mêmes ne sont pas pris en charge. Et aussi les bâtiments abritant les services d'ambassade ne sont pas pris, les loyers ne sont même pas payés. Nous demandons à l'État congolais de commencer d'abord par prendre en charge les ambassades et les ambassadeurs, de deux, intimer l'ordre à tous les ambassadeurs de faire la liste de tous les Congolais vivant dans le pays où ils se trouvent. Chaque ambassadeur doit tenir un registre de Congolais. Troisièmement, il doit faire le lobbying auprès des gouvernements de ces pays-là pour que la réciprocité soit respectée. De la même manière que nous traitons dignement les étrangers ici en RDC, nous les Congolais, nous devons aussi être bien traités par ceux-là dans leur pays.
Merci Kachai. On va. Merci.
Personne créée à l'image des dieux.
Merci beaucoup. Platini, vous êtes en Mbandaka. Bonjour.
Jody, bonjour. Je salue tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème?
Voilà, merci Jody. Je pense que je suis très heureux d'être ensemble dans ce débat. Et je salue d'abord l'invité qui est aussi avec vous. Et la thématique du jour est louable et très importante parce que, par rapport avec ce qu'on dit aujourd'hui, les Congolais qui vivent à l'étranger, comment se protéger, ça c'est vraiment c'est un sujet très capital aujourd'hui. Parce que nous les Congolais, à tout moment, on enregistre des cas de Congolais morts et tués partout à travers le monde, et aussi ceux qui vivent à l'étranger. Alors moi aujourd'hui, je ne serai pas trop kilométrique pour aller dire d'autres choses, mais je voudrais justement épingler un système que l'État congolais peut mettre en place. Surtout nos ambassadeurs qui se trouvent dans nos différents pays, à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, si tu peux quand même aller un peu en arrière avec ce qui s'était passé à l'époque au niveau du pays du Congo-Brazzaville ici, en face, c'était aussi catastrophique. Alors, si l'invité peut nous expliquer, comment il y a la différence entre les ambassades qui se trouvent ici au Congo, ils sont bien structurés, bien organisés, mais nos ambassadeurs qui se trouvent dans d'autres pays, ils sont très mal organisés. Pourquoi ça? Et aussi, il y a un étranger qui vit au Congo, il est calme, il marche bien, il mange bien, il est là, il fait tout ce qu'il veut. Mais un Congolais qui vit à l'étranger, il est en insécurité, il ne marche pas bien comme il se doit. Comment est-ce cette différence-là? Ici, on reçoit très bien l'étranger, mais nous, quand on vit à l'étranger, il se pose inspiré Congolais, surtout nous les Congolais. Voilà un peu, je voudrais avoir un peu l'éclaircissement chez l'invité
merci, par Platini. Rapport
à mes petites préoccupations que j'ai lancées dans ce débat.
Merci Platini, nous parlons de la protection des citoyens congolais à l'étranger. Avec le professeur Prince Kaloumé Béa, il est enseignant des droits internationaux publics. Nous avons Malonga en ligne depuis Bandundouville. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à notre invité, le professeur qui est là.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, Jody, ce sujet est très complexe, puisque nous sommes ici près de la frontière angolaise. Lorsque j'avais suivi de la maltraitance des Congolais là, moi-même, je me suis investigué pour connaître la cause de ça. Mais j'ai eu des amples vraiment explications qui m'a été convaincu en me disant que non, les Congolais qui sont maltraités là, ce n'est pas les Congolais qui sont en ordre. Ce sont les Congolais, les fraudeurs, qui n'ont pas aucun document, qui sont vraiment dans une situation très irrégulière. Même vous, si vous partez là en Angola, vous avez vos documents bien complets, vous serez étant un Angolais. Ah, j'ai vérifié, j'ai vu que c'est réel. Alors, pour expliquer ce cas-là, des réfugiés ou bien des citoyens congolais qui sont à l'étranger, ils sont maltraités, il faut savoir la cause de cette maltraitance. Si la guerre se passe dans un pays où les Congolais se trouvent, ils doivent subir la même situation que les citoyens aussi autochtones de là. Ils doivent se défendre. Alors nous avons aussi les ambassadeurs, les ambassades et les consuls. Ils sont là pour protéger aussi les citoyens congolais, les droits congolais. Mais le pays dont les Congolais vivent là-bas, ont les droits internationaux de protéger tous les citoyens qui vivent sur leur sol. Alors, comme la situation, je vais de suivre mon collègue qui vient de dire que comment nous sommes bien avec les étrangers, mais nous sommes maltraités à l'étranger. Ça, il faut investiguer ça très 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 bien, très très bien. Nous aussi ici, dans des frontières, pour connaître très bien qu'il y a aussi les étrangers qui souffrent ici. Allez dans des frontières, vous allez voir comment est-ce que la DGM et notre État aussi découvrent ceux qui veulent maltraiter notre pays, ceux qui entrent dans de mauvaises conditions, ils sont aussi maltraités, ils sont rentrés, ils sont réfugiés. Alors ça, il faut éduquer d'abord les citoyens congolais, s'ils partent ailleurs, ils doivent bien se comporter pour vivre très bien ailleurs. Mais s'ils ne se comportent pas comme il faut, même ici au Congo, il y a des prisons, il y a des cachots, il y a des tribunaux. Les Congolais sont arrêtés ici, ils se trouvent dans de mauvaises conditions. Ça, en tout cas, c'est une question et une hypothèse très complexe. Le professeur qui est là doit vraiment expliquer ça très, très, très bien.
Merci Malonga. Et merci à tous les auditeurs. Professeur Prince Kaloumé, vous avez la parole. Il y a eu plusieurs préoccupations, mais vous pouvez les recouper.
Effectivement.
Et répondre aux auditeurs.
Je commence par la préoccupation de M. Boumediene, c'est qu'il y a un Congolais qui est arrêté en Zambie.
Emprisonné en Zambie.
Je dois d'abord le faire observer que la frontière entre la RDC et la Zambie a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes sécuritaires. Mais la première démarche que j'ai pu leur suggérer, c'est de dénoncer. D'abord, de porter l'affaire au niveau du gouverneur du Haut-Katanga, qui peut initier, conformément au droit de la coopération, parce qu'ils sont des territoires transfrontaliers. Donc, sûrement que ce sont les commerçants qui passent avec des laissés-passer, et il peut se saisir de cas pour suivre le cas d'un commerçant. Ce n'est pas vraiment au niveau diplomatique. Ou carrément, c'est ceux qui sont en situation régulière de traverser la frontière, d'aller se renseigner pour ce cas-là et en faire un suivi. Ça ne doit pas nécessairement être un cas de suivi au niveau de l'État national. Mais si ça devient flagrant, l'État national, l'ambassadeur qui est là ou un chargé d'affaires qui est en Zambie pourra se saisir du cas et pourra suivre. Mais le comble, c'est que la personne est d'abord en prison. Les mécanismes viennent après. C'est comme ça qu'on rappelle qu'il y a une obligation de bien se comporter quand on est chez autrui. C'est naturel. Mais vous savez combien ça se passe à la frontière. Il y a beaucoup de problèmes. Mmh. Il y a ceux qui entrent le matin, rentrent le soir, qui avancent jusqu'à des zones interdites pour les étrangers. Ça arrive. Donc, je demande qu'ils dénoncent, premièrement, qu'ils saisissent le gouverneur. C'est un monsieur très, très équilibré qui peut faire toute la procédure pour s'enquérir de la situation du Congolais qui est en prison ou carrément, si au niveau institutionnel ça ne marche pas, qu'il traverse, ceux qui sont en situation régulière traversent pour se renseigner. Il y a un barreau, il y a sûrement un bureau de consultation gratuite qui peut, ils peuvent saisir cet avocat-là, qui peut faire un dossier.
Est-ce que nos avocats peuvent traverser pour aller aussi plaider
Nous avons un accord de coopération avec le Congo Brazza, avec la Zambie, je ne sais pas, je me réserve. En principe, c'est, comme l'a dit un intervenant, si vous avez une convention avec la réciprocité, c'est que nos avocats peuvent aller jusque-là. Mais je ne sais pas si on a un accord de coopération judiciaire avec la Zambie qui accepte nos avocats aillent jusque-là, traversent de l'autre côté. Mmh. Monsieur Pierrot, Pagna parle de l'affaire George Floyd, ainsi de suite. Vous savez, à un certain niveau, il y a ce qu'on appelle le rapport d'État. Le rapport d'État, c'est que nous sommes un État, mais on n'est pas un État comme les États-Unis. Ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes moyens de faire le même lobbying avec un impact mondial visible. Vous avez vu...
Le rapport des forces n'est pas
le
même.
Le rapport des forces n'est pas le même. Nous sommes tous des États. Vous avez vu le cas de Khashoggi, qui a été tué dans l'ambassade saoudienne en Turquie. Vous avez vu que il y a eu des vagues d'indignation. Il y a même eu une enquête. Il y a eu beaucoup de choses. C'est le rapport des forces. C'est vrai, notre ambassadeur, je crois que le chef d'État vient de nommer un nouvel ambassadeur aux États-Unis. Je ne sais même pas s'il a déjà toute la situation d'un État continent comme les États-Unis d'Amérique. Mais je suppose qu'il est saisi du cas, il fait ce qu'il peut. S'il n'y a pas d'écho, retour, ça prouve le niveau de notre diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de stratégies.
Mais l'ambassadeur américain ici a présenté des excuses.
Oui, présenter des excuses, c'est officiel, c'est diplomatique, c'est souple. Mais la suite, c'est quoi? C'est une personne qui est décédée. On doit penser à une indemnisation, on doit penser à tout ça. Les excuses, c'est parce que la vidéo a choqué. Mais imaginez-vous, s'il n'y avait pas de
vidéos. S'il n'y avait pas de vidéos, alors.
S'il n'y avait
pas
de vidéos.
Ça allait passer inaperçu.
Incognito, la communauté congolaise dénoncerait. C'est là où moi, j'ai dit aux amis. Moi-même qui vous parle ici, j'ai un frère qui s'est expatrié pour les États-Unis. Ça fait 12 ans qu'il est là. Je n'ai jamais appris, 12 ou 15 ans, j'ai jamais appris que il était interpellé. J'ai jamais appris. Donc, c'est une obligation de bien se comporter.
Parce qu'il est en situation régulière, il a tous ses papiers, il n'y a pas de soucis.
S'il y a un contrôle policier, même chez lui à la maison, il se soumet. Donc, c'est un peu ça. Quant à M. Kachai, effectivement, faire un plaidoyer, en principe, on a tout un ministère de souveraineté qui est le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire qui s'occupe des Congolais qui sont à l'étranger. Ce ministère a toute une direction. C'est-à-dire quoi? Peut-être que les gens n'ont jamais bien compris pourquoi on a eu une direction en plus de nos consulats. Parce que notre représentation diplomatique gère la coopération internationale entre États, mais gère aussi la vie des Congolais dans d'autres États. Le travail du consul. Si on n'a pas de consul, c'est l'ambassadeur qui fait ce rôle-là.
Oui.
Mais on ajoute au rôle du consul une direction qui part d'ici, qui a des représentations également dans d'autres États. Donc, on apporte un appui institutionnel au travail du consul. Mais s'il n'y a pas de résultats probants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyens qui suivent.
Parce que Kachaya a déploré le fait que déjà nos ambassades
louent
et puis l'administration, il n'y a pas une administration.
Le chef d'État récemment venait de payer quelques arriérés de loyers. Mais la diplomatie, c'est beaucoup de moyens. C'est beaucoup de moyens.
Mais est-ce que les Congolais, les compatriotes qui arrivent dans ces pays-là, vont directement se faire enregistrer?
Ils arrivent de quelle manière, mes chers amis?
Irrégulière.
En tout cas, nous nous connaissons entre nous dans ces pays. Comment est-ce que les gens vont à l'étranger?
Oui. Quelqu'un a même parlé de l'Angola. Il y a des gens qui... On est maltraités en Angola à cause de tout ça.
Ce sont des problèmes complexes. L'expatriation n'est pas bien assurée dès le départ. Il y a des gens qui vont dans des conditions compliquées, qui passent par le Brésil, qui remontent, tout ça. Se retrouvent aux États-Unis. En situation irrégulière ou avec des documents d'autrui. Ça, c'est clair, on doit se dire la vérité. L'important, c'est que j'arrive aux États-Unis et puis je vais voir après. Effectivement, tu arrives. Mais tu as les documents d'autrui. Tu dis ce qu'on dit en lingala, au bois Kingunda. Mais c'est avec un document d'autrui. Est-ce qu'on va te tracer dans l'administration? Est-ce que tu vas faire la procédure pour changer des documents? Quand tu vas faire la procédure pour changer des documents, il faut que tu obtiennes un jugement ici, tout ça, que tu envoies là-bas. Et puis là-bas, on suit tout.
Déjà, quand tu as une situation irrégulière...
Ça devient compliqué, pour changer. Ça devient compliqué. Même ceux qui vont en Europe, ça devient compliqué. Mais ce sont des cas légers. Moi, je suis avocat de profession. Je reçois des recours. On voudrait avoir tel document pour faire ceci. Vous comprenez que cette situation ici, c'est une situation complexe. Mais il faut chercher à régulariser. Ça prend du temps. Et ça ne se régularise pas. Tu restes en situation irrégulière chez autrui et ça devient difficile d'intégrer le système. Et quand tu n'es pas tracé, tu es inconnu.
Soit tu peux te retrouver en prison ou soit on te refoule.
On ne sait même pas si tu es en prison. Personne ne te suit.
Personne ne te suit.
Personne ne te suit parce que la situation est complexe. Platini qui parle, les ambassades, lorsque les États signent des accords d'établissement, des accords de coopération diplomatique avec d'autres États, en fait, une ambassade, c'est la continuité de l'autre État dans un autre État. Donc, il n'appartient pas, nous avons nos obligations de protéger les sièges, les drapeaux, de ne pas faire ceci, de ne pas taxer, de ne pas faire ceci. Il appartient aussi à la RDC de faire de même là où elle installe des ambassades. Elle peut effectivement mettre des moyens. C'est vrai, nous en RDC, notre politique étrangère ne s'accompagne pas des moyens pour notre prestige. C'est ça la difficulté. Nous nous focalisons sur notre politique intérieure. Ministère de l'Intérieur, Finances, vous voyez, les attributs de souveraineté, mais sur les plans internes. Nous n'accordons pas beaucoup d'importance
à la politique étrangère.
À la politique étrangère, on met pas beaucoup de moyens. Parce que vous avez même vu que lorsque le chef de l'État avait nommé les ambassadeurs, il a regroupé les États pour dire que 3-4 États, on a une ambassade quelque part. On a des chargés d'émission, ainsi de suite. Ça veut dire que nous n'avons pas suffisamment de moyens de notre politique. Nous n'avons pas beaucoup de
visibilité. Et la plupart des ambassades vivent seulement avec les cartes. Quand les gens viennent acheter les cartes, bien voilà.
Les difficultés sont réelles. Et pour voir qu'elles sont réelles, même les fonctionnaires qui y vont, quand ils décèdent, on peut mettre une année sans rapatriement. Le ministre l'a déploré, je l'ai suivi, c'était avec beaucoup de larmes. Il a déploré que, bon, il a dit on va aller régler tout ça. Moi j'ai proposé à l'époque, que on devait avoir un budget spécifique qui pouvait être utilisé rapidement pour les affaires étrangères.
Parce que d'accord. Ça... Professeur, je reviens à vous le temps d'accueillir trois auditeurs.
Shadari, il n'y a pas de problème.
Shadari de Bounia, Joël de Pumagi et Charles Kissimba de Lumbashi. Shadari, bonjour. Shadari, veuillez réduire le volume de votre radio. Vous allez suivre à partir de votre téléphone. Hein. Ou bien veuillez vous éloigner de votre poste récepteur. D'accord, allez-y. Quelle est votre question, Shadari? Bien, on passe à Joël depuis Mahagui. Bonjour Joël.
Bonjour Radio Capi.
On vous écoute.
Bonjour à l'invité au studio.
On vous écoute.
Bonjour.
Je salue la franchise de l'invité au studio, la manière dont il est en train de parler. Je suis à la frontière avec l'Ouganda. Il est vrai que les Congolais lui-même est à la base des problèmes qui lui arrivent au niveau de l'étranger. Mais aussi, il faut noter qu'au niveau de notre ministère des Affaires étrangères, il y a beaucoup de choses qui clochent. Nous qui sommes à la frontière, nous vivons des cas réguliers lorsque des pays comme l'Ouganda, le Rwanda, parce que nous avons eu la chance ou le privilège de visiter quelques pays de East Africa Community. À chaque contrôle de routine, on nous remet plusieurs Congolais à la frontière. Ces contrôles les exigent d'abord des arrestations. Après les arrestations, il y a des extorsions. Et on les refoule, à chaque fois ça nous fait de la honte. Heureusement qu'avec la communauté d'East Africa, on vient d'entrer dedans, mais on ne sait pas. On va bénéficier quand de ces histoires-là. Mais ce qui est étonnant, là où je voulais poser une question à notre invité, est que lorsque vous voyagez, même avec des passeports congolais, quand vous êtes en ordre, il arrive des fois, lorsque vous êtes dans certains aéroports, je vous donne un cas pragmatique. Un jour, nous sommes arrivés à Zambie, à l'aéroport Kenneth Kaunda. Malheureusement, c'est tombé un jour férié où il y avait un personnel réduit au niveau de l'aéroport. On était avec les Rwandais, assemblés, les Ougandais, assemblés. Et lorsqu'il fallait accorder des privilèges pour que les gens qui travaillent dans des organisations d'intégration régionale puissent passer. On nous dit, s'il y a des Congolais parmi vous, vous mettez d'abord à l'écart. On fait passer d'abord les Rwandais et les Ougandais. Or, nous constituons un même corps. Et je me suis dit, pourquoi cette discrimination? Lorsqu'on récupère votre passeport, vous êtes sur la file d'attente. Si c'est un Congolais, donc vous bloquez tout le monde presque parce que vous devez passer par plusieurs contrôles à la fois. Donc même notre passeport ne fait pas foi lorsque vous voyagez dans certains pays. Ça, c'est un problème sérieux. Mais aussi, au niveau de tous ces pays que nous avons eu à visiter, nous ne sentons pas vraiment qu'il y a les ambassades qui nous accompagnent. Donc, vous vous démenez vous-même, il n'y a aucun suivi, il n'y a rien, on ne sait pas, les Congolais entrent ici, je ne sais pas.
D'accord, merci Joël. Pourquoi ça ne marche pas? Bien, merci. Charles Kissimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
En tout cas, nous regrettons parce qu'un Congolais est devenu ennemi du monde entier. D'abord, monsieur Jody, mon ami Katia, il doit aussi savoir que prendre en charge les ambassadeurs, c'est un atout, bien sûr. Mais ces derniers suivent aussi la façon dont nous sommes gérés ici à l'interne d'abord. Rien ne prouve que les ambassadeurs sont mal payés parce que un Congolais ne dira jamais que je suis bien payé. Ça, c'est notre mentalité. Moi, je voulais plutôt embrasser l'option selon laquelle, ou l'option qui consiste à la réciprocité. Car si nous faisons la réponse du berger à la bergère, M. Jody, ceci sera un garde-fou. Rappelez-vous, lorsqu'on a saccagé des magasins de Sud-Africains, ici en RDC, à Lubumbashi, tout comme à Kinshasa, quand on a saccagé les magasins de Sud-Africains au Nigeria, nos amis Sud-Africains, ils sont devenus à la raison. Il y a une accalmie totale. Alors voilà les modèles à suivre. Car trop, c'est trop.
D'accord. Merci Charles. Merci Charles Kissimba. On va donner la parole à Justin de Mahagi. Bonjour Justin.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama, bonjour et merci, paix à l'âme de notre compatriote qui vient de perdre sa vie à l'étranger comme ça. Alors moi je n'ai pas une question mais j'ai un conseil à donner au peuple congolais, s'agissant de déplacements pareils par exemple. Vous savez, on dit en droit qu'il faut vivre le territoire pour que la loi vous soit appliquée. Il faut que les Congolais essayent un peu de mettre de l'eau dans leur vin et quand ils quittent le pays, il faut qu'ils soient en ordre. Il faut qu'ils soient en ordre. Je vous donne un exemple ici. Vous quittez Mahagi pour le Rwanda. Les Rwandais n'aiment pas le mot pardon. Quand vous dites seulement pardon à un Rwandais, militaire rwandais, un policier rwandais, il tire directement sur vous. Donc, il faut se comporter à ça. Puisque quand vous voulez vivre au Rwanda, il faut être comme ça. Alors, dans ces cas-là, il faut seulement renforcer la vigilance de notre ambassade qui est aux États-Unis, là, par exemple. Il faut lui rappeler des instructions, peut-être, il a oublié. Ou notre compatriote qui est décédé là, il n'avait pas de documents conformes à la loi des Américains, c'est pourquoi il voulait fuir, et voilà, le coup de balle l'a attrapé, et il a perdu sa vie. Donc, il faut se conformer aux lois d'un pays, comme l'invité a dit à l'introduction, il faut se conformer. C'est
bien
ce que j'avais à dire.
Merci Justin de Mahagi. Professeur Prince, à vous la parole.
Merci beaucoup Monsieur Justin, je vous remercie pour votre contribution. Monsieur Kacha, la réciprocité voudrait, selon votre entendement, que comme un Congolais a été tué, qu'il soit aussi tué aussi ici.
Qu'un Américain soit tué ici,
vous voyez que ce n'est pas toujours élégant d'avoir l'oncle Sam derrière soi ou contre soi, c'est très compliqué.
Oui.
Il y a des règles, des minimums, des standards de civilisation à observer. Il y a des textes, des conventions internationales qu'il faut respecter. C'est qu'une bavure policière peut arriver, même ici, des bavures policières. Ce qu'on recherche en cas de bavure policière, c'est que la loi soit dite comme il se doit, qu'on puisse comprendre les motivations. Un policier, peut-être que c'était un apprenti, ou il sautait de l'académie, ou il n'avait pas toute la maîtrise, ça peut arriver. Même ici, il y a des jeunes policiers qui commettent des bavures,
oui,
qui sont prises, et puis qui sont sanctionnés conformément à la loi. L'incident est arrivé, on ne peut que déplorer. Mais pour que pareil incident n'arrive pas, il faudrait anticiper les choses, mieux se conformer. Donc, on ne saura pas vraiment appliquer la réciprocité selon votre entendement, on peut prendre des mesures pour et puis sensibiliser ceux qui vont à l'étranger. Nous savons comment est-ce que les gens vont à l'étranger, c'est pas très facile. L'ami qui a parlé, Joël qui a parlé, Joël de Mahagi, c'est vrai, on sent pas l'accompagnement. S'il n'y a pas d'accompagnement, ça traduit l'état d'esprit dans lequel nous évoluons, tout ça. Vous savez, pour tout déplacement officiel ou ceci, cela, ceux qui se déplacent doivent être renseignés. Ils doivent savoir que tels se sont déplacés. Tel groupe est allé à tel endroit, tout ça. Généralement, ça ne suit pas. C'est fait quand vous avez des problèmes de documents, on ne sait même pas que vous êtes là à l'aéroport. On ne sait pas. Les officiels ne savent pas.
Ils ne savent pas.
Ça doit être suivi. Il doit y avoir un monitoring des mouvements de ceux qui se déplacent. La DGM.
Mais ça s'est fait à la DGM lorsque vous voulez embarquer à l'aéroport.
Effectivement,
par exemple,
mais ça doit être relayé dans les services extérieurs, dans les renseignements extérieurs. Et puis, le consul doit recevoir ça dans un temps record. Donc, l'importance du numérique pour que. On sait qu'avec tel vol, oui, Congolais sont dedans, ils arrivent. Ça doit être fait comme ça. Mais si ça ne marche pas comme ça, qu'est-ce que moi je peux bien faire? Je ne suis pas décideur. Mais on essaie d'apporter un peu de théorie, un peu de bonne sensibilisation pour que ça marche. C'est d'ailleurs le bien fondé d'une telle émission.
Oui. Parce que vous avez dit la meilleure protection, il faut d'abord se conformer.
Conformez-vous.
Aux lois du pays. Ayez tous vos documents en ordre.
Ne faites pas les gros dos devant un étranger qui parle anglais, toi tu parles français, vous ne vous comprenez pas d'abord. Donc c'est très dangereux. C'est faire vraiment profil bas.
Et en plus un policier.
Devant un contrôle. C'est vrai que dans l'opinion publique étrangère, c'est que le Congolais passe pour un type un peu compliqué. On pense toujours qu'il veut frauder. Or, ça, ce n'est qu'une perception. Il y a des Congolais intègres qui circulent partout ailleurs librement. Librement. Et qui font un bon boulot. Si un malheur pareil vous est arrivé, généralement, c'est que nous, quand nous avons connu des déboires à l'aéroport ou à l'étranger, on n'écrit pas aux autorités officielles pour dénoncer. Voyez-vous? On s'est dit, bon, je m'en fous, je continue. Seulement, ça ne fera rien. On laisse passer. Non. Il faut toujours dénoncer. Et ce genre de boulot-là doit être recueilli, canalisé avec un monitoring pour voir comment ça évolue dans la diplomatie. Je crois que le ministre des Affaires étrangères, avec ses équipes, font ce genre de boulot.
Bien, on retient pour se protéger ou en cas de danger. La première chose, il faut avoir les documents en ordre.
Oui.
C'est conformé aux lois du pays.
Oui.
Et puis, vous avez parlé de la communauté. On peut également.
Oui, on doit compter. On doit compter. Parce que ça, c'est d'ailleurs l'unité africaine. Vous voyez, quand dès que tu descends, tu arrives à Addis Abeba. Quand tous les noirs que tu retrouves, ils t'appellent frère.
La solidarité africaine.
Effectivement, ça évolue comme ça. Même à l'étranger, ceux qui s'établissent. C'est par communauté. Vous allez voir qu'il y a très peu de Congolais qui intègrent les milieux des Blancs. Nous sommes toujours entre nous dans nos milieux. Très peu.
Mais parfois, il y a certains Congolais qui refusent d'approcher les communautés congolaises parce qu'ils se disent on est trop compliqué, on évite les problèmes, chacun pour soi, Dieu pour tous.
Ça, c'est un complexe. Quand on est à l'étranger, on est tous frères. Et ce sont ces frères-là qui peuvent t'aider. On est tous frères. Et ça, c'est l'unité africaine prônée par nos pères. Kwame Nkrumah et consorts, même Lumumba aussi, on est tous frères africains. Et c'est pour ça que cette solidarité va au-delà de la nationalité. On doit toujours l'utiliser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres communautés qui apportent trop de problèmes à autrui. Vous voyez, des communautés, des états, et quand vous approchez d'eux directement, vous êtes indexé comme des dealers, tout ça.
Oui.
Les gens disent non, je préfère être seul au lieu d'être avec tous ces gens-là.
Oui. Donc, on risque de nous mettre dans le même sac.
Oui. Et puis quand on vous arrête à côté de ces gens-là, vous êtes foutu.
C'est fini, vous. C'est fini. Vous faites
donc,
la prison.
C'est fini pour vous. C'est fini. Donc, il faut être très prudent, c'est vrai. Mais il faut que les gens. Il faut que les structures officielles puissent effectivement. C'est possible. Dans notre pays,
doter
on peut tout faire.
Doter les consuls des moyens, les ambassades à l'extérieur,
c'est des moyens. On peut tout faire. C'est possible. Il suffit d'une bonne volonté, d'une dose conséquente de mise en œuvre, d'intelligentsia, et avec la somme des énergies, dans une vision très, très explicite des affaires étrangères, on peut arriver à ça. On vient de sortir des travaux ici, que les ministres des Affaires étrangères ont tenu avec les ambassadeurs, tout ça. On espère que ces résolutions-là seront mises en œuvre pour redynamiser la politique étrangère de la RDC. Puis on espère que ça va marcher.
Bien. Ça va marcher. Professeur Prince Kaloumé Béya, je rappelle que vous êtes expert en droit international public. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie et je permets de faire un clin d'œil à mon estimé collègue, le prof Mouelou Mbouremi, qui est le président de la Cour de la Commission africaine des droits de l'homme, qui fait un excellent travail dans la promotion de ce genre de cas. Et puis, j'ai fait un clin d'œil à une amie, CTC. Je crois qu'elle va se reconnaître. Merci beaucoup.
À la prochaine.
Merci.